Delphine Diaz, réfugiée dans l'histoire.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Arrêtons ce naufrage de civilisation. Est-ce que vous avez repéré cette phrase du pape François à la fin de l'année dernière lorsqu'il était au chevet des réfugiés de Lesbos ? Naufrage de civilisation, crise migratoire, crise de l'asile. Quels sont les bons mots ? Tout dépend de celui qui fait la prise de vue, me dira le photographe. Delphine Diaz, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, en France, m'a tout l'air de s'y connaître en mise au point sur les invisibles d'hier et d'aujourd'hui. L'histoire des exilés à la dérive n'étant pas née de la dernière pluie, si j'ose dire, elle nous le rappelle, archive à l'appui, en publiant « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe à nos jours » et à voir ses nombreuses collaborations et publications. Je citerai par exemple « Un asile pour tous les peuples exilés et réfugiés étrangers dans la France du 1er XIXe siècle ». Mon petit doigt en sol majeur me dit que son arbre généalogique a quelque chose à nous dire sur toutes ces brûlantes questions. Bonjour Delphine Diaz.
Bonjour.
Si je vous dis « Les Indes galantes », vous me répondez ?
Forêt sensible.
Alors, qu'est-ce qui, dans ces Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, séduit l'historienne que vous êtes, Delphine Diaz ?
Ah, ce qui me séduit dans cet opéra-ballet, c'est cette scène, effectivement, la réconciliation entre les Européens et les « sauvages », entre guillemets. Cette scène du grand chalumet de la paix. Et ce à quoi je suis sensible aussi, c'est une récente mise en scène à l'Opéra Bastille, de cet opéra, par le vidéaste Clément Cogitor et le chorégraphe Bintou Dembélé, qui m'avait beaucoup touchée. Et qui, pour moi, justement, représentait ces formes de métissage qui sont à l'honneur dans cette émission.
Et pour en finir avec l'orientalisme et l'exotisme, tant
oui.
décrié aujourd'hui.
Tout à fait. Ouais.
Allez, une première question en sol majeur qui s'impose à une agrégée d'histoire qui planche sur la question des réfugiés en Europe.
Que sabes de tus antepasados?
Que savez-vous de vos ancêtres?
Que sais-je de mes ancêtres ? Alors ce que je sais, c'est que je suis le fruit d'une histoire d'immigration, comme assez classiquement une grande partie de nos concitoyens, que je suis du côté de ma mère, la descendante de ce qu'on appellerait aujourd'hui un migrant, un travailleur agricole qui a quitté sa Belgique natale pour s'installer dans le Pas-de-Calais, ce carrefour migratoire important encore aujourd'hui, on le sait.
De langue flamande. Hein.
De langue flamande, tout à fait. Et donc ma mère est issue de cette migration belge vers la France, qui a été très longtemps, tout au long du 19e siècle, la migration majoritaire en France, on l'oublie souvent. Et du côté de mon père, je suis plutôt le résultat d'une migration politique de réfugiés, puisque mes grands-parents se sont exilés d'Espagne en 1939, au terme de la guerre civile espagnole, et se sont rencontrés en France.
Bon, bah, ça pose déjà pas mal de passeports sur la table et pas mal de décors. Je peux vous faire écouter une chanson, une de celles que vous fredonniez en famille ?
Traigo la camisa roja, tra la 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 la. Traigo la camisa roja, tra la 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 la. De sangre de un compañero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. De sangre de un compañero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo.
Serait-ce la chanson de l'exil que vos grands-parents vous ont appris, c'est la dédicace de votre livre d'ailleurs.
Oui, c'est une de ces nombreuses chansons que l'on chantait en famille, en espagnol, mais aussi en français ou encore en basque, puisque mes grands-parents se sont installés au Pays basque. Une de ces nombreuses chansons est vraiment une de celles que j'aime le plus, parce qu'elle évoque cette histoire très complexe de la Deuxième République espagnole. Elle renvoie à un épisode célèbre dans la mémoire de la gauche et de l'extrême gauche espagnole, en 1934, quand les mineurs asturiens se sont révoltés contre la République, se sont mis en grève et se sont révoltés contre la République. Et cette chanson, donc « En el Pozo María Luisa », donc le puits Marie-Louise, qui est le puits où descendent les mineurs, eh bien, cette chanson leur rend hommage à ces mineurs asturiens et à leur chemise rouge ensanglantée.
Alors, vous dites que vos grands-parents espagnols donc, ont rejoint la France après la retirada. En 1939, ça fait référence à l'exode espagnol de cette année-là. Rappelez-nous le contexte de cet exode.
Alors, contexte de cet exode, les réfugiés espagnols donc, se pressent aux frontières à la fin donc, de la guerre civile, frontières pyrénéennes, et à la fin du mois de janvier, donc, tentent de passer la frontière à différents points et sont bloqués aux frontières durant un moment. Finalement, les frontières sont d'abord ouvertes aux civils à la fin du mois de janvier, puis aux militaires au début du mois de février. Mon grand-père était seul, puisque lui, il était commissaire politique de l'armée républicaine.
Il faut rappeler que cette guerre d'Espagne a divisé le pays en deux, avec d'un côté les nationalistes, Franco et l'Église, et de l'autre les républicains, dont faisait partie donc votre grand-père.
Oui, bien sûr, j'aurais dû le rappeler. Une guerre civile qui met aux prises donc, une armée nationaliste soutenue par les régimes totalitaires, et effectivement une armée républicaine qui émane d'un régime démocratique et légitime. Donc effectivement, mes grands-parents se sont ensuite rencontrés une fois la frontière passée, puis ils se sont installés à Biarritz, comme d'ailleurs beaucoup de réfugiés de la guerre civile espagnole qui ont ensuite fait souche dans notre pays.
Est-ce que vous savez si ces grands-parents, vos grands-parents, ont été des réfugiés bien accueillis dans cette France de 1939 ?
Bien accueilli, dans un premier temps, je ne crois pas. Si je me remémore les souvenirs que m'a transmis mon père, qui est né à Biarritz, donc très peu de temps après leur arrivée en France, et qui se remémore effectivement les colibés, les insultes, la difficulté d'être un réfugié à l'époque misérable, manquant de tout, ayant faim. Donc non, ce ne sont pas des années très douces dont il m'a transmis le souvenir, en tout cas.
Est-ce que vous-même, Delphine Diaz, vous diriez que vous avez grandi donc en France comme une descendante de migrants ?
Oui, bien sûr, oui, comme une descendante de migrants et de réfugiés. C'est une mémoire qui m'a été transmise et qui m'a été transmise aussi des deux côtés, finalement, avec une migration d'origine différente, mais dont la mémoire était présente des deux côtés.
Et c'est une mémoire qui était porteuse pour vous, qui était inspirante ?
Oui, et une mémoire entretenue à la fois par mes grands-parents, par mes parents, Du côté de mon père, effectivement, c'est aussi la pratique de la langue espagnole qui a été perpétuée par mon père, par mes oncles et tantes, nombreux, qui étaient aussi un ailleurs, mais à la fois très très présent dans une vie quotidienne de la descendante d'immigrés que j'étais.
Ça veut dire que toute petite, vous ne rêviez pas forcément de devenir danseuse ou institutrice. Ces origines ont parlé. Est-ce qu'elles ont suffi à expliquer votre parcours d'historienne ?
Elles ont été en partie à l'origine de mon parcours, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi, bien sûr, un parcours aussi intellectuel que j'ai mené cette fois-ci à Paris, qui m'a conduite à vouloir embrasser cette profession d'historienne. Mais j'aurais pu être autre chose aussi, puisque j'avais d'autres aspirations également qui me poussaient vers d'autres types d'enquêtes. Le journalisme aussi, qui m'intéressait beaucoup.
Oui. Mais vos centres d'intérêt, on les retrouve notamment dans votre thèse de doctorat qui portait quand même sur les réfugiés étrangers en France dans la première moitié du 19e siècle.
Oui, 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 cette question des réfugiés, mais appréhendée donc avec une autre époque, avec une autre perspective, puisque je suis remontée cette fois-ci à la première moitié du 19e siècle.
Peu étudiée.
Peu étudiée du point de vue de l'histoire des migrations et de l'immigration, notamment parce que très souvent, on fait commencer cette histoire de l'immigration au milieu du 19e.
Ça correspond à quoi ?
Dans les manuels, dans les ouvrages. Eh bien, ça correspond au fait qu'à partir du milieu du 19e siècle, l'immigration, qu'on peut qualifier plutôt d'immigration économique, devient plus forte. Mais c'est aussi qu'elle est de plus en plus mesurée. C'est-à-dire que c'est à partir de 1851 qu'un premier recensement en France va intégrer les étrangers à ses décomptes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc en fait, la question de l'immigration étrangère devient plus visible. Mais bien évidemment, il y a eu de l'immigration étrangère avant cette date.
Mais aujourd'hui, parce que ça c'était hier, c'était la thèse d'hier, oui. Aujourd'hui la page d'histoire qui vous intéresse prioritairement, c'est quoi ?
Toujours le 19e siècle, plutôt la fin du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale. Je m'intéresse beaucoup en ce moment à tous les oubliés de ces migrations contraintes, en particulier aux femmes. Et puis la question aussi des enfants en migration qui m'interroge beaucoup en ce moment. Et voilà, ce sont deux pistes que je poursuis actuellement, mais toujours en partant de mes terrains de prédilection, donc plutôt le long 19e siècle.
Alors tout ça fait de vous quelle historienne ? Vous venez un peu d'y répondre, mais pour le savoir un peu plus précisément, on va passer par cet hymne des femmes qui fait partie de vos tiroirs.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fons, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui sommes le continent noir. Quelle est l'histoire de cet hymne, Delphine Diaz ?
Alors c'est une chanson qui a un riche passé, puisque d'abord, effectivement, cet hymne a été composé sur la musique du chant des marais, le chant des déportés, qui était composé en 1933 par des prisonniers communistes dans un camp allemand, donc dans l'Allemagne nazie, et qui a donc ensuite été récupéré par le MLF pour effectivement en faire son hymne. Donc cette chanson sur les femmes sans passé qui m'émeut beaucoup, parce qu'elle me renvoie précisément, je crois aussi, à ma vocation d'historienne, enfin à la vocation telle que je l'entends moi, à savoir faire aussi l'histoire finalement des invisibles, des perdants de l'histoire, que ce soit les femmes, les enfants parfois, mais également bien sûr les proscrits que je suis à travers mes recherches sur l'histoire contemporaine.
Ça veut dire que vous, l'amoureuse des chants révolutionnaires, parce qu'il y en a pas mal dans votre inventaire, vous vous sentez avoir une mission en tant qu'historienne.
Oui, c'est vraiment ce qui m'enthousiasme aussi, ce qui me motive quand je me rends dans un fonds d'archives, c'est aussi de chercher aussi les individus qui sont en marge de ces documents poussiéreux que j'étudie, c'est-à-dire, par exemple, précisément les femmes, dans les registres de réfugiés au XIXe siècle, elles n'apparaissent pas ou très peu, quelques lignes, quelques mentions, parfois on trouve au détour d'un passeport, ce réfugié est accompagné de son épouse, mais elle n'est même pas nommée. Mmh. Et ça explique pourquoi, très longtemps, ces femmes et ces enfants qui accompagnaient les réfugiés ont été rendus invisibles par les recherches, parce qu'ils sont très, très peu visibles dans les sources mêmes. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres moyens de les appréhender, en partant à la quête d'autres sources, d'autres archives.
Lesquelles ?
Archives familiales, archives privées, quand il en reste, ce qui n'est pas toujours évident. Les fonds policiers, les fonds diplomatiques et on peut quand même retrouver leurs traces si on est bien attentif.
À quand votre récit intime?
Peut-être pour bientôt, oui.
C'est drôle, on dirait un chant de marin. C'est signé Joshan Hartze, c'est celui qui écrit, et Michael Laboa, c'est celui qui compose apparemment cette valse en 68. Alors à quelle occasion, Delphine Diaz ?
Alors c'est une chanson qui m'émeut beaucoup, parce que bon, déjà c'est une chanson qui est très populaire au Pays Basque, et qui a été composée dans des circonstances un peu particulières, l'oppression franquiste, au moment où au Pays Basque espagnol on ne pouvait pas parler basque publiquement. Et donc c'est une chanson qui est aussi émouvante parce qu'elle parle de liberté, elle parle d'un oiseau à qui on coupe les ailes et qui malgré tout est ce symbole de liberté.
Le titre de ce morceau ?
Alors Egoac, voilà.
Ce qui veut
Egoac.
Dire.
Alors c'est Chora Chori, hein, ce qui nous renvoie justement, enfin il y a deux titres en réalité, ça nous renvoie à cette symbolique de l'oiseau.
Alors je précise que notre conversation est enregistrée au lendemain de la conférence « L'exil et l'asile au XIXe siècle », un parcours à travers les collections du musée d'Orsay que vous avez donné donc dans le cadre du cycle « Les mondes d'Orsay » sous la direction de Pierre Singaravelu, qu'on aime bien ici en sol majeur. Est-ce que vous auriez comme ça en tête une œuvre d'un artiste français du XIXe qui vous semble exprimer cette thématique de l'asile ou de l'exil ?
Il y a en effet une œuvre sur laquelle je concluais hier cette intervention au musée d'Orsay. C'était une œuvre assez méconnue aujourd'hui, je crois, de Manet, « L'évasion de Rochefort », une œuvre qu'il peint en 1880. Et ce tableau, en fait, raconte la fuite d'un déporté politique français, donc Rochefort, qui était un journaliste opposant au Second Empire et ensuite opposant Adolphe Thiers, donc qui a été déporté politique en Nouvelle-Calédonie. Et c'est un tableau qui est très émouvant parce qu'il représente donc l'évasion du bagne de Rochefort, qui est donc au milieu de l'océan, sur un radeau, et qui sera ensuite récupéré par un autre navire qu'on voit très très loin à l'horizon, et qui renvoie précisément à cet imaginaire de la fuite en mer des exilés et des déportés.
Déjà,
oui, oui. Qui fait écho à d'autres représentations de la fuite en mer très, très fortes au XIXe siècle. Je pense par exemple au célèbre tableau de Géricault, le radeau de la Méduse, qui n'est pas un tableau qui parle d'exil, mais qui est un tableau qui représente donc des naufragés sur un radeau, hein, qui vont finir par effectivement pratiquer le cannibalisme pour survivre, hein, mais qui a beaucoup inspiré par la suite, par sa composition, par son ton tragique, toutes les représentations de l'exil en mer.
Puisqu'on est dans les images, on va y rester une seconde. Quelle photo vous avez choisie, vous, personnellement, Delphine Diaz, pour la couverture de votre livre « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du 18e à nos jours ». Je vous la remets sous les yeux.
Oui, je la connais bien. C'est une photo qui représente donc une femme accompagnée de ses enfants.
Elle habillée porte, en noir.
Voilà, elle porte un bébé dans ses bras. Et donc, c'est une femme espagnole républicaine qui franchit la frontière pyrénéenne en 1939. Elle n'a rien à voir avec ma famille, hein, mais c'est vrai que j'ai eu à cœur de sélectionner cette photographie qui me renvoyait à mon souvenir de la retirada de 1939. Et puis également, c'était très important pour moi de représenter l'exilé sous les traits d'une femme et d'enfant. Voilà, j'avais envie de me démarquer un petit peu des représentations traditionnelles qu'on retrouve dans effectivement tous les livres d'histoire sur la question de l'exil au 19e ou au 20e siècle. Cette vision du réfugié comme un homme seul, isolé de tout son environnement familial. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette photographie.
D comme damné de la terre.
La figure du réfugié est plus que jamais entrée dans l'ère du soupçon. C'est la dernière phrase de votre livre, Delphine Diaz, à l'heure où on parle plus que jamais de crise migratoire. On reviendra peut-être sur ce terme. Je rappelais d'ailleurs en ouverture la phrase du pape François il y a quelques semaines au chevet des réfugiés de Lesbos qui disait « Arrêtons ce naufrage de civilisation ». Quel a été le moteur de ce livre pour vous ?
Alors, le moteur de ce livre, pour moi, était d'apporter des données historiques, d'apporter des faits. C'était déjà une des premières volontés que j'avais en écrivant ce livre, pour contribuer aussi, en quelque sorte, au débat public, à la formation des historiens, bien sûr, hein, puisque c'est un livre qui s'adresse aussi à des étudiants, à des professeurs, mais également qui puisse dépasser ce public et qui puisse s'adresser à un lectorat bien plus large, qui souhaite s'informer sur le passé migratoire de notre continent.
Quand vous dites au débat public, donc oui. C'est en lien avec ces débats qui justement nous agitent aujourd'hui sur ce qu'on appelle la crise migratoire.
Voilà, bien sûr, oui, c'était aussi une façon de réagir à ce qu'on appelle, donc avec les guillemets nécessaires, la crise migratoire depuis l'été 2015, dont on n'est pas sorti, à tel point qu'on peut s'interroger sur la validité du mot « crise », puisqu'une crise, c'est quelque chose qui change un état et qui le perturbe de manière brutale et qui ne dure pas dans le temps. Hein. Donc, on peut s'interroger sur ce terme qui est employé dans le débat public. Donc oui, c'était une manière pour moi de rappeler des faits au public, au lectorat, le plus vaste possible, à savoir que notre continent a un riche passé migratoire qu'on ne peut nier, et que les flux qui ont été qualifiés comme des flux absolument inédits, absolument qui allaient potentiellement submerger le continent, doivent être réinscrits dans une histoire longue des migrations et des exils. Et c'est pour ça que ce livre cherche aussi, très souvent, à donner des chiffres sur les grandes vagues migratoires qui ont marqué l'Europe. Et ces vagues migratoires qui n'ont pas été uniquement intra-européennes, comme on l'entend souvent.
Oui, oui, parce qu'à la fin de votre livre, justement, vous prenez soin de rappeler des grandes dates. Hein, j'en donne juste trois. 1685, révocation de l'édit de Nantes en France. 1775, début de la guerre d'indépendance américaine. 1798, grande rébellion irlandaise de déportation outre-mer des insurgés. C'est-à-dire que cette histoire de réfugiés ne se raconte pas d'un point de vue national.
Exactement. C'est une histoire qui ne peut pas être racontée uniquement d'un point de vue national. Et même le cadre européen est parfois un peu trop étroit pour aborder ces histoires. Et d'ailleurs, même si mon terrain est l'Europe, très souvent, je suis amenée à expliquer qu'il y a eu des flux, effectivement, en provenance des Amériques, comme c'est le cas après la guerre d'indépendance américaine, où il y a beaucoup de loyalistes qui étaient restés fidèles à la couronne britannique et qui vont s'exiler en Europe, mais aussi bien au-delà. Et je le rappelle, effectivement, à de nombreuses reprises, que cette histoire européenne, c'est une histoire qui ne peut pas être déconnectée, finalement, aussi d'une histoire mondiale. Et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Par ailleurs, c'est aussi une histoire de flux migratoires qui sont marqués aussi par des les substrats culturels, religieux, qui ne sont pas forcément ceux que l'on présuppose aujourd'hui, puisque très souvent, on a effectivement des gens qui disent « Mais attention, aujourd'hui, les migrants viennent du bassin méditerranéen, ils sont souvent de religion musulmane, donc ils ne peuvent pas s'intégrer. » Or, ce livre rappelle aussi à quel point l'Europe a été un espace de brassage de migrants, d'exilés, de proscrits.
Vous pensez à quel épisode, par exemple ?
Venus de nombreux contextes culturels et religieux. Et bien, par exemple, je pense tout simplement à la grande migration, par exemple, des Juifs d'Europe centrale et orientale à la fin du XIXe siècle, à la suite des pogroms qui se produisent dans l'Empire russe à partir de 1882. Et donc, cet exode a été massif. Ce sont 2 millions de personnes qui se sont exilées. Alors, pour des raisons très complexes, à la fois des raisons confessionnelles, à la fois des raisons économiques, mais un petit peu comme aujourd'hui, si vous voulez, quand on nous dit les migrants viennent parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils fuient l'oppression, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a très souvent une conjonction de facteurs qui explique ces migrations qui se font sous la contrainte.
Alors cette histoire de réfugiés en Europe est vieille comme le monde, donc on l'a bien compris. Comment la raconter ? C'est toute votre problématique à vous d'historienne. Est-ce que vous avez voulu construire ce récit qui, on l'a compris, est très documenté, très archivé, en décloisonnant, comme vous dites, l'histoire d'immigration économique et politique?
Oui, c'était vraiment un des objectifs aussi de ce livre, c'était de réinscrire l'histoire des exils dans une histoire plus vaste des migrations, donc en m'appuyant sur les acquis de cette historiographie des migrations qui est très riche, très en mouvement depuis ces dernières années. Et ce livre, donc, veut à la fois proposer donc un parcours chronologiquement scandé dans l'histoire de l'Europe. Donc c'est un parcours chronologique tout à fait classique qui s'appuie sur des sources qui sont effectivement des sources multiples, pas seulement françaises bien évidemment, mais aussi européennes, avec des archives d'autres pays qui ont été exploitées, qui ont été dépouillées, comparées. Et également, c'est aussi un livre qui veut, au-delà même donc de cet appareil de données, de statistiques, de cartes également qui sont insérées dans l'ouvrage, qui veut aussi finalement restituer la parole même des réfugiés sur leur expérience. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'ai eu à cœur d'alterner finalement avec des passages où j'essaye de présenter le plus clairement possible, enfin du moins je l'espère, ces données sur la migration, et des passages où j'essaie de leur redonner une voix. Ça implique pour moi de partir des sources plus intimes qu'ils ont laissées. Parmi ces sources plus intimes où on entend leur voix, il y a par exemple le matériau extrêmement profus que sont les pétitions aux autorités. Parce que dans les pétitions, les exilés, que ce soit ceux du 19e ou du 20e siècle, ne cessent de se raconter. Et puis à côté de cela, il y a d'autres sources plus classiques qui permettent aussi de retrouver la voix des exilés. Ce sont les archives qu'on appelle les archives du fort privé, donc tous les écrits intimes, à savoir les correspondances familiales, les correspondances de couple, et également toutes les autobiographies ou les morceaux d'autobiographie, les bribes d'autobiographie que l'on peut trouver pour étudier cette question de l'exil.
Hier, on parlait de réfugiés espagnols ou italiens. Aujourd'hui, depuis les printemps arabes, surtout, on parle de réfugiés musulmans. Mais avec régulièrement, vous nous le faites comprendre, dans les inconscients collectifs, le caractère inassimilable de ces populations. Et pourtant, vous y consacrez d'ailleurs un chapitre, l'exilé a d'abord fait figure de héros.
Oui, l'exilé a fait figure de héros à l'époque romantique notamment. L'exil devient une sorte de passage obligé dans la vie d'un opposant politique. C'est aussi une manière, finalement, de s'affirmer, d'affirmer sa voix. Le fait de s'expatrier à l'étranger, parfois de manière volontaire, puisque l'exil volontaire était reconnu vraiment comme une réalité aussi dans cette Europe du XIXe siècle.
À quel réfugié politique vous faites allusion, par exemple ?
Eh bien, il y a tout un ensemble de réfugiés politiques qui s'exilent volontairement. Je pense par exemple à Heinrich Heine, donc le célèbre poète allemand qui vit en France après la Révolution de Juillet. Donc il n'est pas condamné politiquement. Il part parce que, en fait, il veut échapper à la censure. Mais voilà, c'est aussi, finalement, il y a une part quand même de choix aussi dans cette volonté de s'installer en France juste après la Révolution de Juillet 1830. Donc l'exil à l'étranger est aussi, finalement, à cette époque-là, une manière de se faire connaître, une manière de faire connaître ses idées, une manière de les publier aussi dans d'autres langues. Et donc ça, c'est aussi un aspect très important de l'exil au XIXe siècle, c'est qu'il va contribuer aussi finalement à décloisonner les combats politiques. Et par exemple, donc, le libéralisme ne peut se comprendre au XIXe siècle sans passer par une enquête sur l'exil des patriotes qui ont diffusé un certain nombre de modèles, de décrits, de constitutions même. Qui se sont ainsi propagés.
Le discrédit alors de cette figure du réfugié s'installe à quel moment ? Vous parlez notamment du crépuscule des révolutions.
Oui, le crépuscule des révolutions, j'emprunte la formule ici à Quentin de Luermoz, qui évoque ainsi toute la séquence qui fait suite au grand moment révolutionnaire des années 1848-1849. Et en effet, au lendemain de ces révolutions, on a en Europe un resserrement des conditions d'accueil des réfugiés. Les réfugiés sont de plus en plus assimilés à des hommes potentiellement dangereux. On a des législations qui vont aussi de plus en plus les assimiler à des condamnés de droit commun. Donc c'est aussi toute la frontière entre condamnés politiques et condamnés de droit commun qui va être parfois brouillée.
C'est-à-dire qu'en fait, au gré des changements de régime politique, au gré du vent de l'histoire, comme on dit, par exemple au moment de la Seconde Guerre mondiale, finalement, il y a des notions différentes qui vont s'agréger autour de la figure du réfugié. On va commencer à parler du déplacé forcé, on va commencer à parler du déporté tout court.
Oui, le XXe siècle est aussi riche du point de vue de l'histoire de cette catégorie du réfugié qui se construit à la fois par les lois des États, les pratiques administratives des États, mais aussi par le droit international. Et ça, c'est vraiment l'un des grands apports du XXe siècle, à la fois avec la séquence des années 1920, où se construit un premier droit international sous l'égide de la Société des Nations, qui va mettre en place un certificat qui permet aux réfugiés apatrides de circuler, ce qu'on appelle le certificat, le passeport Nansen. Mm-hmm. Et puis un autre temps fort, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a donc été un moment où on a eu sans doute plus de 10 millions de personnes sur les routes de l'exil, eh bien, se construire un nouveau droit international sur la base de la Convention de Genève de 1951.
Et elle qui va, la fameuse.
Voilà, qui va tracer la limite entre celui ou celle qu'on peut qualifier de réfugié, donc qui est celui ou celle qui a été persécuté individuellement, et effectivement tous les autres migrants, immigrants, exilés.
Alors vous qui vous battez pour justement rendre visibles ceux qui ne le sont pas dans cette histoire, vous le savez mieux que personne, Delphine Diaz, derrière le visage d'un réfugié ou d'un migrant, il y a des récits, il y a des vies laissées derrière soi, il y a des objets aussi qu'on choisit de laisser ou d'emporter. Exemple avec des réfugiés Rohingyas, c'est une minorité persécutée aujourd'hui en Birmanie.
C'est la plaque de ma maison. Dans notre pays, chaque maison a une plaque comme ça. Quand on est parti, on s'est dit qu'on avait besoin de quelque chose pour prouver qu'on était Rohingya. C'est une preuve de notre résidence, c'est correct.
J'ai emporté les marmites et du riz. Je savais que les enfants auraient très faim après 2 jours de marche.
On a passé 9 jours à marcher à travers les collines. Nos enfants étaient avec nous, donc on les a portés, eux. Eux et rien d'autre.
Pour En Sol Majeur, la voix des réfugiés Rohingyas. Pour En Sol Majeur, également la question des objets de l'exil qui intéresse l'historienne que vous êtes, Delphine Diaz. Vous avez un œil sur les travaux en anthropologie.
Oui, ce sont des travaux qui m'intéressent beaucoup en anthropologie de la migration, qui se sont beaucoup penchés sur effectivement les objets qu'emportent les migrants, les exilés, au moment de leur départ, et ce qu'ils parviennent à garder également au fil de leur itinéraire, puisqu'on sait que beaucoup les perdent en route, que parfois aussi ils en sont dépossédés. Et donc cette question des objets de l'exil, c'est une question à laquelle je suis très sensible, et j'essaye à travers les sources que je fréquente, donc à chaque fois des sources administratives, mais également des sources plus privées, d'enquêter sur les objets de la migration.
Alors qu'est-ce que vous retrouvez, par exemple ?
Ce que je retrouve, par exemple, dans les sources policières, dans les interrogatoires qu'on conserve et qui font souvent une liste très précise de ce qu'ont sur eux les exilés contrôlés et interrogés, on retrouve très souvent donc un peu d'argent, des lettres de recommandation essentielles à l'époque, Donc on trouve aussi des papiers, hein, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, il y avait déjà des passeports au 19e siècle. Alors certes, ils étaient moins perfectionnés qu'aujourd'hui, parce qu'ils ne portaient pas de photographie, par exemple, pour identifier les exilés. Donc voilà, ce sont ce type d'objets qui m'intéressent. Après, il y a aussi des objets qui ont une valeur plus sentimentale et dont on a la trace aussi dans les sources plus intimes. Je pense par exemple à une histoire très émouvante qui est laissée par Victorine Brochet, donc une communarde. Eh bien, quand elle part en exil à la fin de la Semaine sanglante, donc après la Semaine sanglante à Paris en mai 1871, elle va d'abord se recueillir sur la tombe d'un de ses enfants qu'elle avait perdu pendant le siège, pendant l'occupation prussienne de Paris. Et elle va récupérer sur la tombe de son enfant donc une petite couronne en perles qu'elle avait laissée au moment de l'enterrement. Et donc, elle emporte cette couronne en perles quand elle part en exil en Suisse, puisque c'est le seul souvenir qu'elle peut garder de son enfant mort.
Alors, puisqu'on est sur l'intime, je ne sais pas si vous avez fouillé vous-même vos propres archives familiales. Est-ce que vous savez ce que vos grands-parents, réfugiés espagnols, ont emporté dans leur exil?
C'est une bonne question, mais je ne le sais pas. Je devrais interroger mon père et mes oncles et tantes pour savoir si ils ont un souvenir d'un objet en particulier.
Cordonnier mal chaussé?
Oui, certainement.
Alors, je vous ai demandé, Delphine Diaz, quelles étaient les figures inspirantes pour vous dans votre travail d'historienne. Et vous m'avez parlé notamment de Michel Foucault, un philosophe qui s'est longuement penché sur le fonctionnement de notre société et de ses institutions. Dans l'archive qu'on va écouter, l'auteur de « Surveiller et punir », il déroulait une histoire de la naissance de la prison. Il revient sur la fonction du juge.
Quand le juge demande à l'accusé de se reconnaître coupable, d'accepter sa faute, littéralement de s'humilier devant lui, au fond, le juge, on a l'impression qu'il veut effectivement piétiner l'accusé. Moi, je dirais, c'est tout le contraire. Il lui demande un formidable service. Il demande à l'accusé de lui dire au fond ceci. Eh bien, oui, monsieur le juge, ce n'est pas tellement vous qui jugez, c'est la société tout entière, c'est cette société à laquelle j'appartiens, et par conséquent, si je réclame ma peine, c'est donc moi qui me punis moi-même, et ce n'est pas vous. Je vous innocente, vous, juge. Eh bien, c'est cela que le juge veut obtenir, c'est ce discours qu'il veut obtenir, ce discours qu'il innocente lui-même, que le juge veut obtenir quand il demande à l'accusé de montrer qu'il acceptera effectivement sa punition.
La fine analyse de Michel Foucault. Delphine, est-ce que vous avez donc été au lait de se surveiller et punir?
Oui, pour tout ce qui est de l'histoire des dispositifs de surveillance, de contrôle, c'est une source inépuisable d'inspiration. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée, la pensée de Foucault, notamment pour travailler sur une réalité assez peu connue, qui est le dépôt de réfugiés au XIXe siècle. Puisqu'au XIXe siècle, en réalité, les réfugiés accueillis en France étaient très largement secourus par le gouvernement, beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on leur donnait de l'argent de manière très régulière. Et ces fonds, ces secours qui leur étaient versés, leur permettaient finalement aussi de maintenir leur statut social. C'est-à-dire que plus on était riche, plus le secours était élevé. Plus on était pauvre, en revanche, plus le secours était réduit. Et en contrepartie donc, de ces secours octroyés par le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur, les réfugiés devaient, en revanche, s'astreindre à un très lourd système de surveillance dans ces dépôts qui étaient donc constitués très largement dans des villes de province, à bonne distance de Paris et à bonne distance aussi des frontières du pays. Et donc avec un système de contrôle nominatif très régulier, parfois également avec des regroupements dans des casernes, avec des couvre-feux également qui étaient mis en place quand des incidents survenaient, puisque à l'époque déjà, il y avait des incidents xénophobes hein, qui affrontaient les réfugiés aux sociétés locales avec lesquelles ils étaient confrontés.
Surveiller et punir, peut-être deux notions qui renvoient à ces origines espagnoles qu'on évoquait en sol majeur tout à l'heure. Des origines synonymes aussi de nostalgie sépia.
Pour vous, rentrer à la maison, c'est où?
Au Pays Basque, oui, non, je suis originaire, oui. Oui. Alors c'est une chanson qu'on a écoutée, qui est une chanson de Cantabrie, dont était originaire ma grand-mère, qui n'est pas très loin du Pays Basque géographiquement. Mais oui, c'est au Pays Basque.
Expliquez-moi pourquoi.
Parce que je pense qu'effectivement, c'est là où j'ai mes attaches, là où j'ai ma famille. Et c'est là où je me sens le plus proche aussi des gens, de la nature, entre mer et montagne. C'est vrai que c'est un espace frontalier aussi qui m'émeut beaucoup, parce que je sais que on est toujours à la frontière entre plusieurs pays, entre plusieurs cultures, entre plusieurs langues également. On peut passer du français à l'espagnol, au basque. Et c'est cela que j'aime le plus dans cet endroit.
Mais vous aimez bien aussi rentrer à la Butte aux Cailles, à Paris, dans le 13e.
Dans le 13e arrondissement.
Et cette Butte aux Cailles, elle a un passé historique assez riche.
Oui, elle a un passé riche pour la 19e-iste que je suis. C'est aussi un des lieux majeurs pour l'insurrection de la Commune de Paris. D'ailleurs, avec une mémoire qui est très vive dans ce quartier. Les amis de la Commune qui sont effectivement implantés là. Et très actifs également dans leur commémoration des événements.
Bon, bah tiens, peut-être qu'en 1900, ça causait comme ça à la Butte aux Cailles. Tendez bien l'oreille, cette archive date de 1912.
Ça, c'est bien votre voix. Ah, c'est parfait, parfait, c'est même vrai, très curieux. C'est très drôle. Il me semble même que c'est extraordinaire que j'ai une voix aussi drainarde. Jamais je n'aurais cru. Vous savez, on ne s'entend pas, absolument. Je n'ai pas une voix drainarde. Vous avez tout simplement l'accent de Paris. C'est justement ça que je veux enregistrer. Enfin, aujourd'hui, j'en suis convaincu. Bien des gens m'ont dit des fois, on m'y traîne ce garçon dans sa conversation. Ben,
une archive exceptionnelle, je vous avais prévenu, de chez nos amis de France Culture. La voix d'un tapissier parisien de 1912. Et ça, c'est un objet sonore qui vous ravit, Delphine.
Qui me ravit, oui. Un tapissier parisien du 14e arrondissement, où j'ai passé mon enfance. Et qui ravive des souvenirs que j'ai de personnes âgées que j'ai fréquentées dans mon enfance à Paris et qui avaient un accent qui ressemblait à celui-ci. Et effectivement, ça me renvoie aussi mon intérêt aussi pour l'histoire des classes populaires, puisque ici, c'est un tapissier qui travaille pour des bourgeois. Et il dit aussi par la suite que les bourgeois payent bien maintenant dans le 14e arrondissement. Et il renvoie déjà à l'embourgeoisement de ce quartier, qui était un quartier populaire à l'origine, récemment intégré à Paris. Effectivement, c'est une archive qui me touche beaucoup.
Et ça m'inspire cette question. Si vous deviez, vous, imaginons, quitter précipitamment le pays, on va dire la France, vous savez ce que vous ne manqueriez pas d'emporter ?
J'hésite beaucoup. Je pense que j'emporterai des dessins de mes enfants.
Voilà. Vous hésitez pas tellement quand même.
Oui.
Les dessins des enfants, mais c'est une vraie question.
Oui.
Vous qui travaillez sur ces objets liés à l'exil.
Oui, je pense que ce seraient des dessins d'enfants, oui.
Et votre amour du 19e, vous savez pourquoi le 19e, vous y êtes si attachée ?
J'y suis attachée parce que c'est un siècle que je trouve extraordinaire pour qui s'intéresse aux circulations transnationales. C'est un siècle où finalement l'État-nation n'est jamais totalement fermé sur lui-même, où il y a des modèles qui circulent, des idées qui circulent, et c'est cette dynamique moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est aussi le siècle aussi d'une forme de première mondialisation, et je crois que c'est aussi pour ça que je me suis intéressée prioritairement à ce siècle.
On va refermer ce temps sol majeur avec une question un peu entre guillemets politique, mais vous n'êtes pas obligé de faire une réponse politique. La France va présider le Conseil de l'Europe pendant 6 mois cette année. Cette Europe dont vous pensez qu'elle vit plus une crise de l'asile qu'une crise migratoire. En tant que Française, allons-y, descendante de réfugiés espagnols et historienne, vous attendez quoi de cette présidence française, même si on sait que son pouvoir décisionnaire est assez limité ?
Eh bien, j'attendrai qu'elle inaugure une ère de plus grande solidarité entre les États membres par rapport à la question de la migration. Les héritages des règlements de Dublin ont fait en sorte qu'il y a un défaut de solidarité majeur. Et je pense qu'effectivement, si les États européens arrivaient à se mettre d'accord ensemble sur une meilleure répartition, une meilleure allocation des exilés qu'ils accueillent pour leur demande d'asile, il y aurait peut-être un espoir au bout de ce long tunnel que l'on vit depuis ces dernières années.
En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, c'est donc sorti en folio. C'est ça ?
C'est ça.
Un conseil de lecture, en tout cas, en sol majeur. On va terminer en se tirant la langue. Un symbole rock bien connu, de la part d'une historienne peut-être, qui tire la langue à sa façon. Hein. On se quitte avec les Stones, Can't You Hear Me Knocking ? Parce qu'en fait, il n'y a pas que le boulot dans la vie d'une historienne.
En effet, heureusement.
Pourquoi les Stones ?
Pourquoi les Stones ? Parce que c'est aussi un moment de fête, un moment de, je pense aussi, d'enthousiasme sonore qui se transmet et j'espère transmettre aux éditeurs.
Vous devriez faire de la radio. Hein ?
Un chouïa de rock en sol majeur, émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter ou bien derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Fidiette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on reste calfeutrés dans l'histoire et on se retrouve demain avec Malika Rahal. À demain.